Monsieur le professeur Harpoon, il y a 2 années que le savant politique américain Samuel Huntington a pronostiqué pour le siècle suivant une lutte des cultures. Mais est-ce que vous ne croyez pas que le monde occident et le monde islamique se trouvent dans un conflit très sérieux qui est peut-être déjà une lutte des cultures?
Oui. Alors, on a parlé beaucoup, effectivement, de cette théorie qui a été lancée par Samuel Huntington. Et personnellement, j'ai formulé déjà plusieurs critiques à l'égard de cette prise de position. On ne peut pas nier qu'il y a une opposition très forte des cultures telles que nous les voyons fonctionner en Europe et des cultures dans ce que nous avons appelé le tiers-monde, les sociétés non européennes. Ça, c'est évident, on ne peut pas le nier. Mais on ne peut pas se contenter non plus d'une simple constatation politique de cette opposition entre l'Europe et le reste du monde. Il faut faire comprendre aux citoyens, en particulier en Europe, la genèse historique de cette situation de violence dans laquelle nous sommes entrés après la Deuxième Guerre mondiale. On ne peut pas en effet comprendre la violence actuelle que nous constatons en particulier dans tous les pays musulmans si nous ignorons la genèse historique de cette violence à partir de l'Europe. Il ne s'agit pas de reprendre le discours anticolonial ou anticolonialiste. Cela, à mes yeux, est dépassé. Nous sommes devant une situation tout à fait nouvelle depuis 1989, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre froide. Donc il faut réfléchir à l'intérieur de cette situation nouvelle. Nous sommes maintenant en face de l'Europe libérale. Nous ne sommes plus en face d'une Europe libérale et d'un monde soviétique communiste. Ça, c'est fini. Notre interlocuteur, par conséquent, c'est essentiellement l'Europe. Et moi, je fais une distinction entre l'Europe et l'Occident. Ça, c'est important. En effet, l'Europe est le lieu historique privilégié où il y a eu une histoire continue de la pensée depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et il est très important de remonter au Moyen-Âge parce que nous pouvons inclure l'histoire de l'islam avec l'histoire de l'Europe. C'est un éclairage historique extrêmement important. L'Europe a connu un événement qui n'a pas eu lieu dans toutes les autres cultures du monde. C'est l'événement de la modernité. C'est en Europe seulement qu'il y a eu une rupture fondamentale qui atteint la position même de l'esprit humain devant le problème de la connaissance. Ça n'est pas une simple révolution politique. Ça n'est pas une simple révolution économique. C'est une révolution mentale. Parce que, jusqu'à l'avènement de la modernité, à partir du XVIe siècle et plus encore, à partir des révolutions anglaises et françaises, la raison humaine a conquis une totale indépendance. Et elle a dit, l'hypothèse de l'existence de Dieu n'est plus nécessaire. Donc nous n'avons plus à faire de la théologie. Il faut faire de la philosophie et des études scientifiques pour dominer la nature. Ça, c'est une révolution mentale. Cette révolution a eu lieu en Europe, pas en Amérique. L'Amérique va hériter de ce qui se passe en Europe, historiquement. L'Amérique, c'est la fille de l'Europe. Il faut rester en Europe. Et en Europe, l'islam a été présent. Il a été partie prenante des premières étapes de la raison pour lutter pour son indépendance. Car il y a eu en islam, avant que cela ne se produisît en Europe, du 8e siècle jusqu'au 13e siècle, un combat très important entre la raison philosophique et scientifique et la raison théologique, religieuse. J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « L'humanisme arabe au 10e siècle ». On parle de l'humanisme européen à partir du 16e siècle. Je parle de l'humanisme arabe au 10e siècle qui se caractérise par une confrontation de la raison philosophique grecque, de la culture philosophique et scientifique grecque avec la raison théologique semblable à la raison théologique chrétienne et juive. Voilà des données historiques qu'il faut connaître pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. N'est-ce pas? Or, l'Europe toujours a utilisé la modernité comme un moyen de domination du reste du monde. À partir du 19e siècle, le capitalisme européen, la science européenne, a donné aux Européens une puissance qui a été mise au service de l'expansion politique et économique de l'Europe. C'est comme cela que le rapport des forces dans la Méditerranée a été changé. Déjà à partir du 18e siècle, mais plus encore à partir du 19e siècle. C'est le phénomène colonial. Alors, le phénomène colonial est lié à la modernité. Comment les musulmans, et en particulier les Turcs, les Arabes et les Iraniens, qui font partie de l'ère méditerranéenne, de l'histoire méditerranéenne, comment ont-ils reçu la modernité européenne? Est-ce qu'ils l'ont reçue sous sa figure scientifique, philosophique, philosophie des Lumières sur les droits de l'homme, libératrice des hommes? Ou bien est-ce que les Arabes, les Turcs et les Iraniens ont reçu la modernité sous la figure de la violence politique, sous la figure de la domination politique? Voilà une question cruciale. Comme vous le voyez, c'est une question pour les historiens. Car il ne suffit pas de dire aujourd'hui que les musulmans tournent le dos à l'Occident, rejettent la modernité, parce que l'islam défend le Coran et ignore la modernité, etc. Tout ce langage-là est injuste, parce qu'on ne tient pas compte de l'évolution historique de la modernité en dehors de l'Europe, pas seulement en Europe chez les Européens. Alors, il est important de retenir que pendant tout le 19e siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la modernité a été reçue par un grand nombre d'intellectuels musulmans, mais c'était une élite très réduite qui n'a pas pu communiquer cette modernité à l'ensemble de la population. Et de toute façon, ces élites-là n'ont pas été suffisamment conscientes du phénomène colonial de domination, du phénomène de la violence politique qui s'exerçait sur les peuples musulmans en même temps que les idées modernes libératrices. Et nous arrivons, je vais très vite bien sûr, nous arrivons à la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les grands mouvements politiques nationaux de libération des pays colonisés. Donc nous avons eu une lutte très dure. La guerre d'Algérie de 1954 à 1962 a été une guerre très dure, comme la guerre civile actuelle. Et c'est une guerre de libération politique. Malheureusement, ça n'a pas été une guerre de libération intellectuelle en même temps. C'est la même chose pour toute l'Afrique. C'est la même chose pour l'Asie. La création du Pakistan après la guerre en 1947, la séparation de l'Inde en deux nations dont nous avons hérité les conflits actuels. C'est un résultat de l'occupation anglaise, de l'occupation française, de l'occupation hollandaise en Indonésie. Tout ceci est dans la mémoire actuelle, des générations actuelles. Ça n'a pas disparu. Donc, j'essaye d'expliquer la genèse actuelle de la violence. Alors, je viens d'expliquer le côté européen de cette genèse de la violence. Maintenant, j'explique le côté islamique de cette genèse de la violence politique. Que s'est-il passé dans les pays musulmans du XIIIe siècle jusqu'au XXe siècle? Comment la pensée islamique a-t-elle évolué face à la pensée européenne du XIIIe siècle jusqu'au XXe siècle? Ici encore, il y a quelque chose que les journalistes ne connaissent pas, ils n'en parlent pas. Les historiens en parlent, mais il faut croire qu'ils ne lisent pas ce que disent les historiens. Il s'est passé une évolution exactement inverse de l'évolution de la pensée européenne depuis le XIIIe siècle. Je vous donne un exemple. Le grand philosophe Averroès, en Andalousie, en Espagne, est mort en 1198. C'est la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle. La pensée et les œuvres d'Averroès philosophiques ont été traduites en latin. Et elles ont été étudiées à la Sorbonne, ici, à Bologne, en Italie, à Oxford, en Angleterre, et Averroès est devenu le maître à penser des intellectuels chrétiens européens au XIIIe siècle. L'averroïsme latin, comme on l'appelle, a eu un très grand succès dans les universités européennes du XVIe siècle jusqu'au du XIIIe siècle jusqu'au XVIe siècle. Eh bien, ce même Averroès qui a eu tellement de succès a complètement échoué du côté musulman. Les musulmans ont refusé d'étudier Averroès, de lire les œuvres d'Averroès. Et Averroès a été éliminé du champ intellectuel de la pensée islamique. Ça aussi, c'est très important. Il se passe quelque chose. Donc, mon attitude, moi, c'est de dire: il faut rechercher les origines historiques de l'affaiblissement de la pensée islamique, non pas seulement à partir du 19e siècle à cause du colonialisme, comme le discours nationaliste a toujours dit depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça existe, mais ça n'est pas tout. Il faut expliquer quelque chose de plus large. La pensée islamique n'a pas participé à la création de la modernité. Du XVIe siècle jusqu'en 1924, jusqu'à l'abolition du sultanat ottoman par Atatürk, les intellectuels musulmans dans l'Empire ottoman ont ignoré tous les événements scientifiques et intellectuels qui se passaient en Europe. Alors cette évolution historique, vous le voyez, de l'intérieur même de la pensée islamique, a créé une grande faiblesse intellectuelle dans les sociétés musulmanes. Et une grande faiblesse culturelle. Alors que l'Europe a construit cette modernité qui nous domine tous aujourd'hui, les musulmans se sont retirés. Alors, il s'est créé une immense inégalité, un grand décalage historique entre la situation de la pensée islamique au XIXe et XXe siècle et la situation de la pensée européenne. Voilà pourquoi il faut réviser l'histoire de ce qu'on appelle la domination coloniale. Parce que le discours nationaliste des Arabes, des Turcs, des Iraniens, après la Deuxième Guerre mondiale, a développé une lutte anti-européenne sur le plan politique. Mais en développant la lutte anti-européenne sur le plan politique, il a en même temps ignoré la question de la modernité. On n'y a jamais prêté attention. Or, la modernité est essentielle pour faire évoluer la pensée islamique, comme la pensée chrétienne a été obligée d'évoluer sous la pression des recherches scientifiques, de l'histoire, de la forme des Geschichter, des grands théologiens, Ernst Troeltsch. Bultmann, Barthes, ils ont remué la théologie chrétienne parce qu'ils ont été obligés par les historiens allemands, français, anglais qui ont étudié l'histoire des évangiles, l'histoire de la Bible, la philologie allemande surtout a joué un rôle considérable pour obliger les théologiens chrétiens à moderniser leur théologie. En islam, il ne s'est pas produit cela. On ignore. Jusqu'à présent, je me bats pour essayer de faire connaître ça aux musulmans. Et c'est très difficile de leur faire connaître ce que la pensée chrétienne a été obligée de recevoir de la modernité intellectuelle, des sciences sociales, de la connaissance scientifique à partir du XVIIIe siècle pour changer sa théologie, alors que les musulmans, ils en sont encore à une théologie très élémentaire et qui n'est même pas à la hauteur intellectuelle de la théologie musulmane des penseurs du Moyen Âge. La théologie qu'utilisent les musulmans aujourd'hui, quand ils font des fatwas, comme la fatwa de Khomeini, leur théologie est inférieure intellectuellement à la théologie des penseurs du Moyen Âge. Et elle ignore en même temps, bien sûr, comme je viens de le dire, la pensée des modernes. Alors vous vous rendez compte, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'islam est manipulé par des acteurs sociaux qui n'ont aucune espèce de formation, ni historique, ni théologique, ni philosophique, ni exégétique, pour essayer de comprendre ce que veut dire une théologie moderne pour soutenir une religion. Ce que font les acteurs musulmans actuellement, c'est de demander à l'islam une mobilisation pour une lutte politique, exclusivement. Mais pas pour une lutte intellectuelle, pas pour une rénovation intellectuelle. Donc il y a cette séparation qui fait beaucoup de mal et qui donne libre cours à l'exercice de la violence politique. Et cette violence politique est d'autant plus grande qu'elle est exercée par des personnes qui sont très jeunes. C'est la population musulmane qui est née dans les années 60, dans les années 70, qui s'engage actuellement dans ces luttes politiques, de violence politique. Or, cette génération n'a pas connu de formation scientifique et de formation intellectuelle parce qu'ils ont été dans les écoles après les indépendances. Et les écoles après les indépendances ont toutes été contrôlées par l'idéologie officielle du parti unique, comme en Union soviétique. Ceci a donné une situation tout à fait catastrophique. Et il y a une séparation totale entre des élites qui ont toutes fui, elles vivent en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada, les élites. Et dans les pays, il reste les militants qui utilisent cet islam que l'on appelle l'islam fondamentaliste pour justifier la lutte politique contre les dominations politiques, cette fois-ci à l'intérieur des pays, mais aussi les dominations politiques qui ne sont pas terminées, qu'exerce l'Occident. L'Occident, dans laquelle il y a l'Europe, mais l'Occident c'est une force plus large que l'Europe, parce que l'Occident désormais comprend essentiellement les États-Unis. Or le rôle géopolitique, le rôle économique, le rôle monétaire des États-Unis dans le monde dépasse le rôle de l'Europe elle-même. Voilà pourquoi je fais une différence entre l'Occident du point de vue de son expansion géopolitique, géoéconomique, géomonétaire, et l'Europe, surtout dans sa forme nouvelle de l'Union européenne. Il faut faire cette distinction, et je la fais toujours. Et moi, mon dialogue le plus important, c'est avec l'Union européenne. Parce que je peux échanger avec les Européens toutes les idées d'histoire, de culture, de référence spirituelle, philosophique, etc., que je ne peux pas nécessairement échanger avec les États, avec les Américains, qui ont une dimension historique beaucoup plus réduite que celle des Européens. Une autre idée que je voudrais, sur laquelle j'insiste toujours, c'est l'idée de l'espace méditerranéen. L'espace méditerranéen. Qu'est-ce que c'est que l'espace méditerranéen? C'est un espace historique et culturel où se trouvent les origines de l'Europe religieuse, de l'Europe intellectuelle, de l'Europe culturelle. C'est dans l'ère méditerranéenne qu'il y a eu la domination de la civilisation grecque et de la civilisation romaine, qui sont les sources de la pensée européenne et de l'humanisme européen, de l'État européen, du droit européen. Ça, c'est extrêmement important. Or, la Méditerranée, c'était aussi l'espace où l'islam s'est développé. Et par conséquent, si nous présentons ainsi l'espace méditerranéen comme le lieu commun historique où sont racines les origines intellectuelles, les origines culturelles, politiques, juridiques de l'Europe et de l'islam, nous pouvons rétablir un dialogue à ce niveau-là qui jusqu'à présent n'existe pas parce que il y a eu une rupture de l'espace méditerranéen. Une rupture, autrefois, sous les Romains, on disait la Pax Romana. La Pax Romana, la paix romaine qui régnait tout autour de la Méditerranée. Vous allez en Turquie, vous allez trouver à Antalya des restes romains extrêmement importants. Vous allez en Algérie, vous allez en Tunisie, vous allez en Libye, au Maroc, Rome est là. Tout autour de la Méditerranée, au Liban, en Palestine, Rome est là. C'est l'espace méditerranéen en tant qu'espace culturel unifié à un moment donné. Cet espace a été brisé à partir de l'émergence de l'islam en 622. Et avec les conquêtes musulmanes, il y a eu un conflit entre le christianisme et l'islam. Et ce conflit entre le christianisme et l'islam continue encore de nos jours à diviser les arabo-musulmans, les arabo-turco-irano-musulmans, il faut les englober comme ça, et puis l'Occident. Le conflit israélo-arabe n'est pas encore résolu.
Non.
Et c'est un conflit d'essence religieuse, d'essence culturelle, et que fait l'Europe pour le résoudre? Que fait l'Europe pour le résoudre? Or, ce conflit a son origine, lui aussi, en Europe. Il a son origine en Europe. Donc, l'Europe a une responsabilité historique dans toutes ces violences auxquelles nous assistons aujourd'hui. Et moi, ma réponse, au lieu de celle de Huntington qui parle de clash des cultures et des civilisations, moi je dis, bâtissons une paix sur la base d'un remembrement culturel, historique, philosophique, théologique, dans l'ensemble de l'ère méditerranéenne, incluant l'Europe et l'islam, par une réforme radicale des programmes d'enseignement que nous utilisons dans les lycées et collèges, dans les universités, en cessant d'enseigner l'islam comme une excroissance étrangère à l'essence du judéo-christianisme et à l'essence de la culture et la pensée européenne. Car c'est ce qui se fait en ce moment. L'islam est considéré comme quelque chose d'étranger. Outsider. Et moi, je viens de vous dire, il est dedans. Il n'est pas dehors. Bien sûr, des séparations ont été créées. Des différences ont été créées durant plusieurs siècles d'opposition, plusieurs siècles de guerre théologique, plusieurs siècles de guerre politique. On ne peut pas les ignorer. Mais en même temps, il y a cette histoire culturelle. Il y a cette histoire intellectuelle que nous n'enseignons pas, ni dans les écoles musulmanes et les universités, ni dans les écoles et les universités européennes. Par conséquent, les citoyens ne sont pas informés. Ils ont des représentations imaginaires sur un islam imaginaire que le professeur d'histoire à l'université ne vient pas corriger parce qu'il ignore cette histoire. Il ne l'enseigne pas. Regardez dans les départements d'histoire en Allemagne, dans les universités allemandes, où est-ce qu'on enseigne l'histoire de l'Empire ottoman? Pourtant, l'Empire ottoman est au cœur de l'Europe. L'histoire des Balkans, c'est au cœur de l'Europe. Ben, on n'enseigne pas. On dit c'est de l'islam, c'est oriental, c'est pas occidental. Mais c'est une responsabilité énorme. Et ça, c'est une responsabilité intellectuelle. Ce n'est pas une responsabilité morale seulement. C'est l'intelligence elle-même. Et donc, c'est une faiblesse de la modernité dont j'ai dit beaucoup de bien tout à l'heure. Maintenant, je critique cette modernité. Parce que cette modernité européenne n'a pas créé les conditions scientifiques nécessaires pour interpréter l'évolution des sociétés dans l'ère méditerranéenne d'une façon qui reconnaisse les origines communes, les références communes, en particulier des trois religions monothéistes, et des trois théologies qui ont été construites depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et à mon avis, moi je réponds par une politique de la paix, une politique de la culture, une politique de l'intelligence des cultures, pour l'opposer à l'image de clash des civilisations que développent les États-Unis, parce que justement les États-Unis et leurs intellectuels ont une position d'hégémonie par rapport au reste du monde. Moi j'ai une position de quelqu'un qui est faible de l'autre côté. Je n'ai pas la force des États-Unis. Voilà pourquoi moi je prêche la paix et je ne peux pas prêcher la force, la violence. Donc là il y a une séparation considérable entre l'approche que j'essaie d'avoir de ce problème et l'approche effectivement d'un grand nombre de politologues, aussi bien américains que européens. Et j'ajoute que Samuel Huntington, dans son livre, parce qu'il a publié un livre après son article, dans son livre, fait preuve d'une grande ignorance. Oui, d'une grande ignorance à propos de tout ce que je viens de dire en ce qui concerne les évolutions historiques de l'islam et du christianisme dans l'espace méditerranéen. Il ignore cela. Voilà donc une présentation, malheureusement, qui n'est pas suffisamment répondue, qui n'est pas suffisamment expliquée dans les médias, dans les journaux. Et c'est pour cela que je suis content que vous fassiez quelque chose pour le public allemand, pour qu'il entende un peu ces choses-là et qu'il sache qu'il y a des intellectuels du côté musulman qui prêchent la paix, qui luttent pour la paix, et pour une paix qui n'est pas une paix politique. C'est une paix intellectuelle, c'est plus fort. Parce que le débat, mon débat à moi, c'est un débat sur le plan de la connaissance historique. Et je dis que mes collègues des universités en Europe ne sont pas encore convertis à l'idée d'une histoire qui soit ouverte à l'ensemble des cultures et des civilisations qui existent dans le monde méditerranéen. Et je demande toujours de cesser d'enseigner l'islam et d'enseigner le turc, le persan, dans les départements orientalistiques. Vous savez comment c'est, les départements orientalistiques à Munich, par exemple. C'est un petit ghetto à l'université, marginal. Ça ne fait pas partie de l'organisation des grands départements qui font la vie de l'université européenne. Moi, je dis, l'islam doit être enseigné dans le département d'histoire. Pas dans le département orientalistique. Et moi, ici, à la Sorbonne, c'est la même chose. J'enseigne dans le département orientaliste. Je n'enseigne pas dans le département de philosophie, qui est un grand département, où on enseigne la philosophie occidentale. On n'enseigne pas la philosophie arabe, musulmane. Et c'est tolérable, ça? Ça n'est pas tolérable. C'est une démission de nos intellectuels, une démission des chercheurs scientifiques. Donc il ne faut pas jeter uniquement l'anathème contre les politiques et contre les militants politiques. Il y a la responsabilité des chercheurs, de ceux qui décident de la recherche, et ceci dans toute l'Europe et tous les États-Unis, le Canada, c'est-à-dire la partie hégémonique du monde, celle qui décide du savoir, celle qui donne les habilitations pour devenir Herr Professor. Mais oui, je connais. Ça, c'est une responsabilité. Et cette responsabilité, malheureusement, continue d'être très très mal assumée, parce que nous avons un tas de livres qui paraissent sur l'islam et qui traitent l'islam toujours comme une source de violence, comme une source de fanatisme, comme une source de guerre, sans se demander d'où vient cette violence. Oui.
les récents attentats sur des institutions américaines dans les pays islamiques, est-ce que vous les jugez dans le même contexte?
Ah oui, absolument. C'est dans le même contexte. Parce qu'il faut se représenter la psychologie des arabo-musulmans aujourd'hui. On a eu un grand espoir de paix entre Israël et la Palestine. Les accords d'Oslo, tout le monde était heureux. Et vous voyez ce qui est arrivé? Mais quelle est la psychologie des Palestiniens et des Arabes? Comment réagissent-ils devant cette force contre laquelle personne ne réagit? Alors, ils veulent faire quelque chose. Ils sont outrés. C'est pas possible. Ils préfèrent mourir que de vivre cette injustice. Ah oui. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est pas l'islam. Ils disent islam comme ils disent palestinien, comme ils disent algérien. C'est une manière de parler de même, c'est tout. Ils ignorent complètement les doctrines de l'islam au sujet du meurtre. Il y a un verset dans le Coran qui dit « Quiconque tue une âme, c'est-à-dire une personne, âme au sens biblique, quiconque tue une âme injustement, se trouve dans la situation de celui qui aurait tué l'humanité entière. » Voilà ce qu'il dit. C'est très beau. C'est une condamnation totale. Tuer une âme injustement, sans raison. Condamné dans le Coran. Ben, quand ces gens la tuent, ils ne pensent pas à ce verset. Ils pensent à leur désespoir qui est engendré par l'oppression politique chez eux, par l'oppression politique venant de l'extérieur, par la misère, par le travail qui n'existe pas, par le manque d'éducation, par tout, le manque d'habitation, par une situation terrible. Ça, c'est un autre aspect. Il faut repenser l'ordre économique et l'ordre politique du monde. Et ça n'est pas les musulmans qui peuvent le faire, ils n'en ont pas la possibilité. Ils sont tous dépendants des Européens et des Américains. Vous savez ce qui y arrive? Les Égyptiens, les Syriens, les Saoudiens, les Algériens, les Mao, tous, les Indonésiens, les Malaisiens, partout dans le monde. Où les grands riches placent-ils leur argent? Où est-ce qu'ils placent leur argent? Ils placent leur argent aux États-Unis, en dollars, en Allemagne, en Deutsche Mark, en Suisse, en francs suisses. Et ils investissent leur argent là-bas, pas dans leur pays. Alors que la bourgeoisie européenne, dès le XVIIIe siècle, elle n'investissait pas en Malaisie ou en Indonésie. Les Allemands investissaient en Allemagne. Les Français investissaient en France. Et ils ont fait l'Allemagne et la France d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les industriels, enfin, ce qu'on peut, plutôt les commerçants, parce qu'il n'y a pas d'industriels, des commerçants qui gagnent beaucoup d'argent en faisant venir des marchandises d'Europe et en les revendant en Indonésie ou ailleurs, ben, dès qu'ils gagnent de l'argent, ils le mettent à la Deutsche Bank. Ou Bank of America. Ou BNP en Paris, Crédit Suisse. On trouve ça normal? Ce système-là, c'est un système. Il faut faire cesser ce système pour sauver de la misère tant de jeunes, une population qui grandit et qui est très jeune. On ne fait rien pour cela. We are helpless. On ne voit pas qu'est-ce qu'on peut faire. Évidemment, il faut ajouter aussi, je l'ajoute, il y a des dirigeants politiques dans tous les pays musulmans. Tous les États qui ont émergé dans les années 50 et 60 après les indépendances. Tous ces États-là sont des États antidémocratiques. ils ont tous refusé d'initier, d'introduire un processus de démocratisation dans leur société. Ça, c'est la responsabilité des élites politiques intérieures. Ça n'est pas la responsabilité de l'Europe. Vous voyez, il faut dire les choses des deux côtés. C'est la responsabilité des élites qui ont pris le pouvoir dans les années 50, 60, 70, 80. Vous avez des chefs d'État qui règnent pendant 30 ans et qui sont encore au pouvoir. Ils n'ont pas changé parce qu'il n'y a pas de processus démocratique. Ça, c'est la faute des élites qu'on appelle nationales. Ça n'est pas la faute de l'Europe. Mais l'Europe de son côté, les Américains de leur côté, pactisent avec ces États. Ils font des accords avec ces États, au mépris des peuples. La diplomatie allemande, française, hollandaise, italienne, elle traite avec les États. Elle ne traite pas avec les peuples. Or, ces États, tout le monde reconnaît. Ça aussi, c'est un grand point. La diplomatie allemande-française ne s'adresse jamais aux intellectuels libres. Non, jamais personne n'est venu me parler comme ça, comme vous. Jamais un ministre des Affaires étrangères, même pas ici, en France. Je ne compte pas. Je n'ai aucune présence, alors que j'ai des choses à dire. On parle avec monsieur le ministre des Affaires étrangères de tel ou tel État, même si cet État n'est pas du tout représentatif chez lui. Il est contesté par son peuple. Voilà des contradictions sur lesquelles il faut faire réfléchir les citoyens européens. Parce que les citoyens européens sont la source du pouvoir en Europe. Ils votent. Mais comme ils n'ont pas ces informations au moment de voter, pour obliger leurs députés à modifier leur politique, ben les députés continuent à faire leur travail comme avant. Ils préfèrent faire passer un train à grande vitesse ou créer une école dans un village pour satisfaire les électeurs ou bien leur rendre un petit service aux électeurs. Ça suffit pour aller prendre le pouvoir. Mais ces problèmes-là, d'ordre international, la politique internationale des pays européens est le domaine réservé, comme on l'appelle ici en France, du chancelier, du président de la République. C'est un domaine réservé. C'est-à-dire que les citoyens ne le savent pas. On ne les informe pas. On leur dit des petites choses, mais pas l'essentiel. Ça aussi, c'est extrêmement important. Voilà pourquoi la démocratie n'a pas évolué dans ces pays-là. Et tant que la démocratie n'évolue pas, il y aura toujours ces tensions, ces oppositions, ces luttes politiques, ces violences, c'est normal. C'est une violence politique, ça n'est pas une violence religieuse. Violence politique. Ça ne peut pas aggraver le conflit parce que de toute façon, le Pakistan, l'Inde et tous les autres pays sont des pays beaucoup trop faibles pour changer le rapport de force avec l'Occident. Ça, c'est une première chose. La force est d'un seul côté. Ça, ce sont des satellites, de petits satellites. Et ces satellites essayent de devenir importants par rapport à d'autres satellites. Donc, c'est une lutte régionale. Ça n'est pas une lutte à l'échelle mondiale. Ça, c'est une première observation. Deuxième observation, je vous ai dit que les États, dans tous les pays ex-colonisés, les États qui ont pris le pouvoir dans les années 50-60, ont immédiatement imité les expressions de souveraineté des États européens. Ont pris le pouvoir sont devenus immédiatement des États nationalistes. Et nous savons les ravages du nationalisme en Europe. Le nationalisme allemand contre le nationalisme français et le nationalisme français contre le nationalisme anglais depuis le 19e siècle. Le nationalisme fait des ravages. Or, c'est sur la base de l'idéologie nationaliste que tous ces États-là ont construit leur légitimité. Ils n'ont pas construit leur légitimité par des processus démocratiques. Ils ont construit leur légitimité en faisant des discours au peuple pour leur dire « Nous sommes une nation et nous allons nous unifier pour être grands et forts. » Comme les Européens ont fait. Autrement dit, les États n'ont pas regardé les faiblesses réelles du Pakistan au lendemain de sa naissance, les faiblesses de l'Inde au lendemain de sa naissance, les faiblesses de l'Algérie au lendemain de son indépendance. Non ! Immédiatement, nous sommes une grande nation, nous allons fabriquer tout de suite une grande industrie et nous allons devenir indépendants par rapport à l'Europe. Et nous allons construire une puissance là où nous sommes. Par exemple, le conflit entre l'Algérie et le Maroc, qui est un conflit de puissance régionale, alors qu'ils viennent seulement d'être indépendants. Ça, c'est le nationalisme. Et le nationalisme est un mal, lui aussi, universel, bien sûr. Mais le modèle politique, il vient de l'Europe. C'est le modèle politique du nationalisme jacobin, à la manière de Bismarck, à la manière des Français, de Napoléon. C'est ce nationalisme-là qui a été le modèle des soi-disant leaders politiques qui ont pris le pouvoir au lendemain des indépendances. Et c'est pour cela que nous avons fabriqué une bombe atomique. C'est un geste nationaliste. Un geste nationaliste aveugle. Au mépris de tous les problèmes qui existent, problèmes sociaux, problèmes économiques, problèmes d'éducation, problèmes, tout ça, je fabrique une bombe atomique et je mets de l'argent dedans. Ça, c'est pas enregistré.
Non. Il y a maintenant la globalisation.
Oui.
Est-ce que vous croyez que la globalisation va aggraver les conflits? Ou comment jugez-vous les conséquences politiques, économiques et sociaux de cette globalisation dans les pays islamiques, en particulier dans la région arabe?
Eh bien, pour l'instant, nous voyons très bien que la globalisation, en français on dit la mondialisation, ça c'est les Américains qui disent « globalisation », la globalisation déjà a des effets très négatifs. la crise asiatique est le résultat de la globalisation. La crise économique et monétaire dans les pays producteurs de pétrole, c'est un résultat de la globalisation. Et tout ceci vient d'où ? Qui est-ce qui veut ce type de globalisation ? Qui fixe le prix du pétrole ? Qui ? Je le voudrais bien, nous le voudrions bien. C'est plus compliqué que ça. Ah oui. Or, le prix du pétrole et le prix du dollar, ça commande absolument toutes les économies. Et nous retrouvons toujours la question de l'hégémonie. Où se décident les processus économiques et monétaires de la mondialisation? Où ça se décide? Ça se décide dans les grandes firmes internationales. Ça se décide dans les réunions du G7. Et dans le G7, il n'y a que 7 membres. C'est tout. Les autres, ils obéissent. Ou ils subissent des conséquences. Il faut donc analyser cette situation d'hégémonie. Et vous remarquez que dans les discours politiques officiels, ni les Allemands, ni les Français, ni les Hollandais, ni les... personne ne parle d'hégémonie. Comme si ça n'existait pas. Ils ne peuvent pas avouer eux-mêmes qu'ils exercent une hégémonie sur des secteurs vitaux de la vie des sociétés d'aujourd'hui. La mondialisation, d'un autre côté, a des aspects positifs, à mon avis. Parce que elle crée des interdépendances. Si on exerce une trop forte pression sur l'Asie, comme on vient de le voir, les marchés asiatiques s'effondrent. Et l'industrie allemande, française, européenne s'effondre. Donc il y a une contrainte qui va s'exercer sur les décideurs économiques et politiques du monde hégémonique. Ça c'est bon. Parce qu'il n'y a que la peur qui peut faire changer de politique. Ce n'est pas mes explications qui peuvent changer quelque chose. Malheureusement. Malheureusement. Donc, dans la mondialisation, plus il va y avoir une interdépendance, plus il y aura, nous l'espérons du moins, une révision des stratégies de mondialisation du système économique et du système monétaire en particulier. Et il est urgent de définir un nouveau système monétaire. Urgent. Et de définir, bien sûr, un nouveau système économique, en particulier pour ce qu'on appelle les délocalisations. Les délocalisations, vous savez ce que c'est. Pour gagner plus d'argent, on fait faire les choses en Inde ou en Indonésie, parce que ça coûte moins cher, ou au Maroc, et puis on rapatrie. Toujours, les capitaux reviennent pour que nous vivions bien ici. Ça, il ne faut pas faire des choses comme ça. Ou bien nous vivons une histoire solidaire, ou bien nous avons une conception de la solidarité de l'espèce humaine. Ça, c'est un aspect positif de la mondialisation. Mondialiser la définition du citoyen humain. Sortir du cadre nationaliste de la politique et de l'économie. Ça, c'est bon. Il y a de l'espoir. Et il faut pousser dans cette direction. Tout ce qui peut toucher, affaiblir l'homme dans un endroit quelconque de la Terre va m'affaiblir moi. Voilà comment on définit une solidarité, ce que j'appelle moi une solidarité historique entre les citoyens de la cité humaine. On n'en est pas là. On en est à une définition nationale du citoyen. Même au sein de l'Union européenne, vous voyez les résistances. Comment les Européens résistent ? Non, je ne veux pas entrer. Hein ? Alors, la mondialisation, c'est ça. Il y a un côté positif, prometteur. Il y a de l'espérance pour changer la façon de réfléchir sur la condition humaine et pour définir une citoyenneté dans la cité humaine, pas dans une cité politique déterminée. Je l'appelle la cité humaine. C'est le rêve de Platon déjà. Ben oui, pourquoi pas, nous avons des moyens de le faire aujourd'hui, des moyens concrets. Et on peut les utiliser. Il faut hâter. De ce côté-là, moi, je hâte, je pousse vers la mondialisation. Mais je freine tant que le système monétaire et le système économique n'est pas révisé comme on espère qu'il le sera dans un avenir proche.
Vous avez déjà parlé de la responsabilité de l'Europe intellectuelle, mais... D'autre part, l'Europe se trouve dans une très grave crise de légitimation vis-à-vis le monde islamique en ce qui concerne ses valeurs démocratiques et ses principes. Il y a failli à sa tâche dans la guerre bosniaque et dans le conflit de Kosovo. Comment jugez-vous les conséquences de cette défaillance dans les pays islamiques ?
Vous savez, les pays islamiques sont extrêmement indulgents vis-à-vis de l'Europe. Ils aiment l'Europe. Ils admirent l'Europe. Et oui, même s'ils ne le déclarent pas politiquement, dans leur vie quotidienne, dans leur choix quotidien, ils aiment l'Europe. Ils voient très bien que l'Europe a franchi des pas formidables dans l'émancipation des hommes. Ils le reconnaissent. Voilà pourquoi ils restent indulgents malgré les rebuffades, les rejets dont les musulmans sont l'objet de la part de l'Europe. Malgré cela, l'Europe est défaillante sur beaucoup de points. Elle suit d'une manière cynique une politique d'intérêt. Et le petit Kosovo ne mérite pas qu'on aille engager des soldats. Il n'y a rien à gratter. On le sait. Eh bien, les musulmans le savent, mais quand même, ils gardent pour l'Europe une admiration. Et ils voudraient bien que l'Europe réussisse. Il voudrait bien que l'Union européenne devienne une réalité politique et culturelle très forte. Ils le veulent. Ils ne sont pas acharnés contre l'Europe. Ça, c'est une mauvaise vision. On ne connaît pas les choses telles que les gens les vivent, dans leur foyer, dans leur maison, avec leurs enfants, comment ils parlent à leurs enfants, comment ils vivent. L'Europe ne sait pas ça. Car si elle le savait, peut-être modifierait-elle cette politique désastreuse, effectivement. Dans tous les lieux comme la Bosnie, le Kosovo, la Palestine surtout, qui est un exemple mondial. La Palestine est un cas scandaleux après les accords d'Oslo. C'est scandaleux. Ça, c'est impossible à avaler. De rester comme cela, en spectateur. Ça c'est scandaleux, c'est absolument scandaleux. Et tout le monde est ulcéré. Et cependant, on vient en Europe avec plaisir. On voudrait encore que cette Europe réussisse. On lui souhaite du bien. Voilà la réalité des choses. C'est une contradiction que nous vivons. Que que nous vivons. Personnellement, je suis un militant très convaincu pour la réussite de l'Union européenne. J'ai investi de grandes espérances politiques et culturelles dans la réussite de l'Union européenne. Parce que par l'Union européenne, nous allons dépasser les nationalismes anciens. Oui, mais moi je formule l'espoir, je sais. Et oui, quand même, il faut le dire. Et essayer de travailler, il faut travailler. Ça ne va pas venir tout seul, je le sais. Je connais les Allemands, je connais les Français, je connais les Anglais, je voyage beaucoup en Europe et je connais le sentiment national des Européens, mais quand même, la formation de l'Union Européenne ouvre des possibilités pour une autre vision de la démocratie et une autre vision aussi d'une solidarité historique plus effective, en particulier, comme je l'ai dit, entre le monde européen et le monde méditerranéen, du sud et de l'est de la Méditerranée. Ça, c'est tout à fait crucial, parce que si nous réalisons la paix dans cette partie du monde, ça aura un effet d'exemple et de rayonnement. Parce que dans le monde entier, il ne faut pas oublier une chose, l'islam et le christianisme, ce sont les deux seules religions qui se sont répandues dans le monde entier. Le judaïsme n'a pas gagné le monde entier. Peut-être par l'influence juive. Ce sont les deux seules religions qui ont transporté dans le monde entier les idées bibliques des 10 commandements que tout le monde connaît et partage grâce à ces deux religions. Je ne veux pas défendre une hégémonie du tout de ces deux religions, c'est pour dire simplement qu'il y a là une situation particulière de ces deux religions qui leur confère une responsabilité. Le bouddhisme n'a pas gagné l'ensemble du monde. Il n'y a pas de bouddhisme en Afrique. Il n'y a pas de bouddhisme en Europe. Tandis que le christianisme, il est en Afrique, il est en Asie, il est en Océanie, l'islam aussi. Voilà pourquoi ce sont deux forces spirituelles importantes qu'il faut essayer d'utiliser pour construire, comme je le disais, cette paix dans le monde et surtout une solidarité historique dans le monde. Ça, c'est une étape pour le 21e siècle. Il faut commencer à parler déjà d'une histoire solidaire des peuples, pas une histoire solidaire des États.
Mais l'Union européenne est en train de devenir une forteresse, c'est-à-dire qu'elle est en train d'arrêter la migration, en particulier des pays islamiques, de la région méditerranée. Est-ce que vous croyez qu'une telle politique est réaliste? Quel potentiel de conflit se trouve là?
Le potentiel de conflit, malheureusement, ne peut pas aller bien loin tant qu'il y a cette grande différence de puissance entre les pays d'immigration et les pays forts en Europe. On ne peut rien faire. Les Européens développent une crainte, une peur de l'islam. Mais ils ne se rendent pas compte de l'état de faiblesse militaire, l'état de faiblesse économique. Comment voulez-vous que ces pays puissent menacer une Europe qui a tous les moyens de défense? Ça n'est pas possible. C'est une peur fabriquée pour des raisons politiques nationales. Maintenant, la question de l'immigration et des frontières, elle pourrait être résolue d'une manière beaucoup plus efficace, à mon avis, si, comme je l'avais dit au début, on développait un enseignement des cultures, de façon à ce que les Européens reconnaissent que les musulmans ne sont pas des sauvages, ne sont pas des gens qui tuent pour tuer, qu'ils ont aussi des références culturelles, qu'ils partagent avec les Européens. C'est par cette voie-là que l'immigration deviendra un phénomène plus naturel de circulation des hommes. Parce que les Européens aussi vont là-bas pour travailler. Il y a des Européens partout. Et pourquoi n'y aurait-il pas des gens qui viennent travailler ici? C'est une question de communication culturelle. Pour l'instant, l'école européenne ne crée pas les conditions de la communication culturelle. Voilà la clé. Donc, ce que racontent les journaux sur les Turcs, sur les Arabes, sur les Iraniens, que ce sont des violents, les gens lisent le journal et disent c'est vrai. C'est comme ça. Ils n'ont pas le moyen de corriger cette manipulation de l'imaginaire des Européens au sujet de tous les gens qui viennent offrir leur travail ici. D'autant plus que ce travail est apprécié. Les éboueurs, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'Allemands qui veulent faire le travail des éboueurs pour ramasser les ordures. Travail de maçon, tous les travaux de mine. Voilà ce qu'ont fait ces travailleurs, Hausarbeiter. C'est parce que l'Europe ne respecte pas la condition humaine. Elle a des discours sur les droits de l'homme, mais là, lorsqu'il s'agit de respecter le travail des hommes qui créent des solidarités par ce travail à l'intérieur des sociétés européennes, là, ils renoncent. C'est encore un problème de culture. Et cette culture ne peut avancer que si l'on introduit des réformes profondes dans la culture. Une chose que je n'ai pas dite, ce qu'on appelle l'anthropologie culturelle. L'anthropologie. Elle étudie toutes les cultures. Elle n'étudie pas uniquement ma culture à moi. Est-ce qu'on enseigne l'anthropologie dans les universités allemandes? Est-ce qu'on enseigne l'anthropologie culturelle dans les gymnasiums? Et les Français? Et les Anglais?
Das ist nass.
Je connais, c'est zéro. Dans les sociétés européennes maintenant, c'est des sociétés pluralistes. Une société pluraliste, c'est une bénédiction. Parce que la créativité devient plus forte. Il y a des échanges entre les créativités. Ça enrichit la culture. Ça fait avancer les idées. En Algérie, depuis le départ des Français et des Juifs, nous avions une forte minorité juive. Nous avions une forte minorité de Français, chrétiens, protestants et catholiques. Il y avait le pluralisme culturel et religieux. La société algérienne était forte et dynamique. Je l'ai connue. Depuis l'indépendance, il n'y a plus que des musulmans. Pas de vis-à-vis juif, pas de vis-à-vis français, pas de vis-à-vis italien, rien. Mais c'est désastreux. Lorsque j'ai étudié l'humanisme arabe au Xe siècle, je l'ai mentionné, pourquoi au Xe siècle il y a eu à Bagdad, en Iran, au Caire, à Cordoue, un humanisme? Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de races, beaucoup de langues, beaucoup de cultures qui vivaient ensemble à Bagdad, à Cordoue, au Caire. Pluralisme ethnique, pluralisme linguistique, pluralisme culturel. C'est fort, c'est riche, dynamique. Mais les sociétés européennes ne laissent pas entrer ce pluralisme à l'école. Ne laissent pas entrer ce pluralisme même à l'université. On continue à enseigner l'histoire de la littérature allemande. Allemande. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Français. Je connais ça, je vis là-dedans. Et j'en souffre. Les départements de littérature comparés, qu'est-ce qu'ils comparent ? Français-anglais, français-allemand, français-italien, mais français-arabe, non. Français-persan, non. Français-chinois, non. Voilà des choses simples, mais grandes et significatives d'une civilisation. Alors là, oui, Samuel a raison. Il y a clash des civilisations parce que c'est le clash des ignorances, pas le clash des cultures. Il aurait dû intituler son livre « Le clash des ignorances ». Voilà, le clash des ignorances, pas le clash des cultures. Je suis d'accord pour écrire un livre « Le clash des ignorances ». Mais je n'écrirai pas un livre « Le clash des cultures ». Parce que les cultures, on les a bouclées. On les a verrouillées. Avec l'histoire qu'on enseigne, nationaliste. Avec la littérature qu'on enseigne. Avec la philosophie. Regardez l'histoire, la philosophie en Allemagne. Mais c'est formidable. J'ai eu un débat à Berlin avec un professeur de philosophie à Berlin. À la maison des cultures du monde à Berlin. Il défendait une position philosophique absolument fermée, qui était l'anti-philosophie. Oui, et c'est moi qui viens du Sud qui défendais la philosophie ouverte, européenne des Lumières. C'est moi, c'est pas lui, allemand. Et professeur à l'université de Berlin. Ah, vous pouvez avoir le témoignage, hein. C'est à la maison des cultures du monde. Monsieur Hartmann, vous connaissez peut-être, qui a dirigé ça, il vous dira. Bien. C'est comme ça.
C'est la vraie question d'un dialogue interreligieux. Pendant les années dernières, il y avait plusieurs fois la demande d'un dialogue constructif, interreligieux et interculturel entre l'Occident ou entre l'Europe et le monde. Est-ce qu'il y a un tel dialogue ?
Ah, ça c'est un autre chapitre. Et c'est un chapitre important. Très important. Je suis engagé dans beaucoup de mouvements, de dialogues, dans le monde, partout. Par exemple, la Conférence mondiale des religions pour la paix, qui fait des trucs partout dans le monde. Vous avez une section importante en Allemagne. Alors, quelle est ma position ? Premièrement, la sécularisation de la pensée en Europe a rendu les Européens analphabètes à l'égard du phénomène religieux. On a développé une culture de l'incroyance religieuse. Et on enseigne la culture de l'incroyance. Ça, on enseigne à l'école. Sous prétexte de laïcité. Comme en France. En France, c'est défendu de parler de même d'histoire des religions. On ne parle pas. Donc, ça, c'est une première donnée. Depuis le XVIIIe siècle, en Europe, on a développé officiellement, par la politique éducative appliquée par les États, une culture de l'incroyance. On vous enseigne pourquoi il ne faut pas croire dans les religions. Moyennant quoi, lorsque vous parlez à des étudiants du mystère de la rédemption ou du mystère de l'incarnation, en Europe, hein, aux États-Unis, en Canada, les jeunes étudiants disent quoi? Qu'est-ce que c'est? What's that? What is that? What is that? Connaissent pas. Culture de l'incroyance. Le christianisme en Europe a souffert de cela. Et il a tellement souffert que maintenant, il est dans une situation qui est à la fois bonne parce qu'il a son autonomie spirituelle, son indépendance spirituelle, ça c'est très bien. Mais en même temps, il est marginalisé. Et la pensée théologique chrétienne n'est pas assez forte pour contrecarrer la culture de la croyance. Ça aussi, c'est une chose importante du point de vue du rôle de l'Église et de la pensée chrétienne en Europe. Parce que l'Église a une responsabilité en Europe. Il n'y a pas de pensée chrétienne capable de réfuter intellectuellement et scientifiquement la culture de l'incroyance. On dit c'est démocratique, chacun croit ce qu'il veut, puis on laisse les choses comme ça. Mais il faut lutter, il faut réfléchir. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Comment fonctionnent dans les universités les départements d'histoire des religions? Parce qu'il y a des départements consacrés à l'histoire des religions. Vous en avez en Allemagne, à Munich, il y en a un, je connais. Mais oui. Il y a religieuse, absolument. Comment fonctionne-t-il? Quel est le rapport pour éclairer le public sur la signification des religions et la fonction des religions dans l'histoire des sociétés humaines? C'est une grande érudition pour les professeurs, mais pas pour le grand public. C'est une érudition froide, absente. Absente au problème de la cité. Dans les dialogues que nous faisons à travers le monde, il y a rarement des professeurs d'histoire des religions qui acceptent de venir parler au grand public. Parce qu'ils méprisent ça, ils disent ça, c'est pas de la science. Une activité scientifique sans résultat, profitable pour les citoyens. Le résultat, c'est que les citoyens en Europe ont perdu tout intérêt et toute sensibilité vis-à-vis des religions, en général. Quelques Européens qui rêvassent, ils vont dans l'Himalaya pour voir des bouddhistes qui leur racontent des histoires, ou bien ils se convertissent au mysticisme musulman. Et ça, ça dénote justement une crise à l'intérieur de la pensée religieuse européenne. C'est une crise. Ces gens-là signifient la crise. Troisième point. Si les Européens sont tellement indifférents vis-à-vis de cette religion chrétienne qui a créé l'essentiel de la culture européenne, l'Europe est chrétienne, historiquement, par les arts, par la musique, par la peinture, par l'architecture, par la morale. L'Europe est chrétienne. Ben, les Européens ne peuvent pas lire leur patrimoine culturel. Si les Européens ont créé une telle indifférence vis-à-vis du christianisme, comment voulez-vous demander aux Européens de comprendre quelque chose à l'islam?
Yeah.
riche. C'est de la folie. Voilà pourquoi les Européens sont tout à fait prédisposés à accueillir tout ce que disent les médias au sujet du fanatisme musulman, de la violence musulmane, du Coran qui s'oppose à la modernité, de l'islam qui s'oppose à la science. Tout cela est écrit. Quatrième point. Est-ce que les intellectuels musulmans peuvent apporter quelque chose dans cette situation négative créée par les Européens à l'égard de la religion? Qu'est-ce que peuvent apporter les intellectuels musulmans? Malheureusement, la réponse est négative. Les intellectuels musulmans ne s'intéressent pas à la religion. Ils s'intéressent à l'aspect idéologique, apologétique de la religion, pour dire nous avons une grande civilisation musulmane, pour parler aux Européens. Ça, c'est une catégorie. Une deuxième catégorie de musulmans, ce sont ce qu'on appelle les ulamas. Les ulémas, ce sont les théologiens, ou les théologiens juristes comme les prêtres, qui gèrent l'orthodoxie musulmane. Les ulémas ne sont pas au courant des sciences sociales. Ils ignorent ce que c'est que l'histoire. Qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas? Ils connaissent petite morale, petit catéchisme, le prophète, le Coran c'est la parole de Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu, c'est terminé. Il ne peut pas discuter avec un théologien chrétien qui lui connaît l'histoire. Donc vous voyez, le dialogue est rendu impossible par les conditions culturelles et intellectuelles créées par l'histoire des religions en Europe, par l'évolution de la raison scientifique et philosophique en Europe, d'une part, et par l'évolution, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, d'une pensée islamique qui a délaissé complètement la philosophie, l'histoire, les sciences sociales, et qui donc s'est mise en état d'infériorité pour pouvoir s'engager dans le dialogue d'une façon fructueuse. Maintenant, heureusement, il y a quelques personnalités, tout de même, qui participent à ce dialogue, qui essayent de l'animer, mais c'est extrêmement faible, fragile, parce que ces personnalités capables de mener le dialogue, comme par exemple le Tunisien Mohamed Talbi, il est très connu, il fait ce qu'il peut, mais c'est une hirondelle ne fait pas le printemps, on dit en français. Voilà ce que, malheureusement, je pense sur le dialogue interreligieux. Je viens de publier un texte qui va être traduit en allemand dans la revue Diogène de l'UNESCO. UNESCO, oui, je vais vous donner un...
Parce que la question c'est quel rôle joue dans ce dialogue qui n'existe pas, comme vous avez dit, la dissonance dans la question des droits de l'homme.
Là?
La dissonance dans la question des droits de l'homme.
Distance ou
non? Non, dissonance, qu'il y a...
Désaccord.
Désaccord, oui.
Disagreement. Oui. Alors, au sujet des droits de l'homme, il n'y a pas désaccord. Il y a malentendu. Et le malentendu, une fois de plus, est basé sur l'ignorance. Les musulmans ne connaissent pas la genèse historique et philosophique des droits de l'homme en Europe. connaissent pas cette histoire. Il y en a qui l'ont étudiée, mais c'est toujours la minorité. Et cette minorité, malheureusement, ne peut pas influencer la majorité. Du côté musulman, il n'y a pas eu une politique des droits de l'homme. On ne l'a jamais connue, comme on l'a connue en Europe à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Cela ne veut pas dire que l'homme n'a jamais acquis un sens de ses droits. Dans le contexte islamique, nous avons eu la même attitude vis-à-vis des droits de l'homme que l'Église chrétienne. Rappelez-vous que l'Église chrétienne s'est opposée en France à la Déclaration des droits de l'homme en 1789. Elle n'a pas accepté. Et lorsque les Nations Unies, en 1948, a fait la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Église, par la voix du pape, s'est opposée. Pourquoi ? Et l'Arabie Saoudite aussi s'est opposée avec l'Église. Eh oui ! Pourquoi ? Il faut se demander pourquoi. Ben, vous ne le saviez pas, hein ?
Non.
Eh ben voilà, l'inculture. C'est ça. Il faut toujours être historien, madame, pour comprendre les choses. Dans le christianisme, comme dans le judaïsme, comme dans l'islam, on distingue les droits de Dieu et les droits de l'homme. Dieu a des droits sur l'homme. Pardon.
Der katholische Kirche Menschenrechte Aufklärung. Das war der Prozess.
Oui. Donc, l'Église, comme l'Islam, disent que les droits de l'homme doivent s'exercer à l'intérieur des droits de Dieu. L'homme ne peut pas revendiquer des droits. Si tu viens, salut.
Bonjour, madame.
Bonjour,
madame. Alors, comment ça s'est passé?
Voilà, oui.
Attention. Elle a appelé pour
nous. Oui, elle a appelé. Les droits de l'homme doivent s'exercer à l'intérieur des droits de Dieu. Il faut d'abord respecter les droits de Dieu pour mieux respecter les droits de l'homme. Et l'homme est la créature de Dieu. Il y a donc un contrat, une sorte de contrat qui lie l'homme à Dieu dans la Bible, depuis la création. C'est exactement la même position en islam. Et cette position a été enseignée dans la théologie islamique, juive et chrétienne jusqu'à l'Aufklärung. Et quand l'Aufklärung est arrivée, qu'est-ce qu'il a dit? On n'a plus besoin de droits de Dieu. Si vous voulez respecter les droits de Dieu, c'est votre affaire avec votre conscience. Ça ne peut pas interférer dans l'espace public, qui est du domaine exclusif de l'État. Les droits de l'homme, par conséquent, tels qu'ils ont été déclarés avec la philosophie de l'Aufklärung, c'est les droits de l'individu citoyen. Ça n'est pas le droit de la personne humaine qui se sent en dette vis-à-vis de Dieu, son créateur. C'est une rupture considérable. Vous changez complètement de philosophie. Vous prenez une grande décision. Et cette décision, on ne l'a pas expliquée aux Européens. Culture de l'incroyance. parce qu'il fallait présenter les droits de l'homme dans leur expression juridique et politique comme une conquête entièrement nouvelle qui s'est faite contre l'Église et contre le christianisme. Ce qui disqualifie le christianisme. Ce qui disqualifie encore plus l'Église comme institution. Et ce qui va disqualifier plus gravement le concept philosophico-religieux de personne. Alors vous avez trois choses. La personne humaine, l'individu, une unité isolée et purement juridique, citoyen, dans l'espace public. Choisissez. Choisissez. Et comment vous allez voter à l'ONU pour la déclaration des droits de l'homme? Voilà la situation que l'Église a affrontée devant les Nations Unies en 1948. L'Église a dit, mais mes enfants, vous êtes en train de m'annihiler, vous faites comme si je n'existe pas. Vous me réduisez à l'état d'individu citoyen qui doit se couper en deux et ne plus du tout parler de ma personne, de créature, je me reconnais comme créature de Dieu. C'est exactement ce que disent les musulmans. Mais pour les musulmans, évidemment, on le donne.
Sehr gut.
Ah. En 1989, vous vous rappelez que Khomeini a fait sa fatwa contre Salman Rushdie. Et la grande passion de tous les Européens au sujet de cette fatwa, pour dire que on n'accepte pas cette condamnation, parce que c'est contre les droits de l'écrivain et contre les droits de l'homme. Vous vous rappelez, le journal Le Monde ici a fait une interview le 15 mai 1989. Je me rappelle très bien. Et dans cette interview que vous pouvez lire, si vous retrouvez le journal, le 15 mai 1989, j'ai expliqué ça aux lecteurs du Monde. Je leur ai dit, voilà comment se pose la question des droits de l'homme à l'intérieur de l'islam et du christianisme. Et il y a conflit. Et ce conflit est psychologique, il est philosophique, il est théologique et il est politique. Il n'est pas seulement politique. Si vous dites qu'il est seulement politique, vous ignorez la philosophie. Vous ignorez ma psychologie. Si je suis croyant, vous n'allez pas me violenter. Non, tout ça est écarté, on dit, uniquement le côté politique et juridique. Moi, je voulais expliquer ça comme ça. J'ai été lynché ici à Paris par la presse, des intellectuels français, en disant que je suis un fondamentaliste intégriste qui me range du côté de Khomeini, je défends Khomeini au lieu de défendre les droits de l'homme. Alors que c'est absolument fou. Vous voyez ce que je vous dis? Je suis avec Rushdie. Mais j'explique quand même. Je connais les miens. Et je connais les chrétiens. Il n'y a que les chrétiens qui m'ont défendu. Les autres m'ont lynché en écrivant dans Le Monde contre moi. Vous pouvez lire. Voilà un exemple de l'intolérance de l'Aufklärung. L'intolérance de l'Aufklärung qui par ailleurs défend la tolérance. Il ne veut même pas entendre une explication historique, philosophique, psychologique des éléments du débat au sujet des droits de l'homme. Puisqu'il s'agit de l'homme, l'homme a une histoire. Il n'est pas simple. Mais l'intolérance de l'Aufklärung vous dire, je ne veux pas entendre vos sornettes au sujet des droits de Dieu. Ça, c'est pour le Moyen-Âge. C'est pas pour nous. Voilà. Et ça, c'est vécu. Et ça m'a blessé.
Une question qui est très liée avec la question des droits de l'homme, c'est la question de l'émancipation des femmes. Il y a beaucoup des œuvres littéraires sur cet objet. Beaucoup de femmes écrivent sur cette question. Alors, il semble que c'est un problème politique et social très urgent. Quelle importance va avoir la question de l'émancipation des femmes pour le développement de la société islamique ?
Bien, alors, là aussi, je vais procéder point par point, pour être clair. Premier point, c'est une situation politique et sociale très urgente, indéniablement, parce qu'il y a des millions de femmes qui souffrent dans leurs conditions actuelles, elles sont dans une condition d'oppression juridique. D'oppression juridique. Parce que le code juridique consacre leur infériorité juridique. Même dans les pays qui ont des constitutions qui se présentent comme des constitutions démocratiques. Donc, il faut dire et répéter, c'est une question politique, sociale et juridique urgente. Deuxième point. Il y a heureusement de plus en plus de femmes qui s'organisent dans les pays musulmans pour dénoncer cette situation. Malheureusement, ça n'est pas suffisant. Elles ne sont pas suffisamment aidées par les hommes qui détiennent le pouvoir. Non seulement le pouvoir politique, mais le pouvoir domestique et le pouvoir juridique. Les hommes ne les aident pas. Ils veulent conserver des privilèges, évident. Mais quand même, il y a des luttes heureusement. Et il faut espérer que ça va continuer. Troisième point, ces luttes des femmes sont retardées par les régimes politiques dont je vous ai dit qu'ils ne sont pas démocratiques. Et même les régimes politiques, très souvent, pas tous, puisent leur légitimité dans le maintien du code qu'on appelle le code de statut personnel, qui met les femmes en état d'infériorité pour montrer que l'État protège la religion. Et puiser de la légitimité auprès du peuple qui veut qu'on protège la religion. C'est purement démagogique. C'est grave. C'est ce qu'on appelle la politique de traditionnalisation. Réaffirmer la force de la tradition aux dépens de la condition des femmes. C'est une malheureusement réalité, mais vous voyez, les choses sont liées. Elles sont liées à l'option des régimes qui n'est pas encore une option démocratique. Et je vous rappelle ce que je vous ai dit sur la solidarité des États européens avec ces États-là et la solidarité tacite des femmes européennes qui ne font rien pour aider ces femmes-là lorsqu'elles votent et qu'elles savent que leur État pour lequel elles votent soutient des codes de ce type. Elles ne font pas leur devoir de citoyen. Bon, parce qu'elles ne sont pas informées, vous allez me dire, mais qu'elles s'informent et qu'elles organisent des associations en invitant des associations de femmes marocaines, algériennes, pakistanaises, il y en a partout. Ça existe, c'est ce que je vous ai dit. Voilà un cas concret de solidarité des peuples. Je ne vais pas attendre que mon État m'autorise. Surtout vous qui êtes libres dans des sociétés démocratiques. Pourquoi vous ne prenez pas ces initiatives ? pour avoir des plateformes et des rencontres, et que les États là-bas entendent qu'il y a eu une réunion à Munich entre l'association des femmes démocrates au Maroc ou des femmes démocrates en Tunisie ou en Égypte pour débattre avec des femmes, et que vos gouvernements les entendent. Ça, c'est un cas concret de solidarité des peuples et de la paix par la culture. Voilà un exemple concret. Et ceci ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et quand ça se fait, j'ai assisté à quelques rencontres, c'est tellement superficiel, c'est tellement fondé sur l'ignorance réciproque que ça ne donne aucun résultat. Ça n'est pas sérieux. Quatrième point, la question du code du statut personnel pour les femmes en islam touche à la question fondamentale de la théologie de la révélation. C'est-à-dire que si vous touchez à ce point-là, vous êtes obligé de toucher à la question de la révélation. Et donc à toute la question de la religion elle-même. Or, dans l'état d'inculture actuelle qui prédomine dans les sociétés musulmanes, et dans l'état actuel de vide politique, où il n'y a pas dans ces sociétés une alternative démocratique qui fonctionne comme en Europe, il est très dangereux de détruire l'unique recours des populations pour croire dans une vérité et dans un code moral. Vous voyez la responsabilité? Ça, c'est le dernier point le plus important. C'est ce que je suis en train de faire, mais je le fais avec beaucoup de respect pour la croyance des gens qui sont démunis. Démunis culturellement, démunis politiquement, démunis économiquement. Je ne vais pas aller leur enlever leur seule source d'espoir et leur source pour rester des êtres humains avec des références éthiques. C'est une grave responsabilité. Voilà l'ensemble des points qu'il faut évoquer à propos de la situation des femmes. Et vous voyez que ce n'est pas simple. Et il ne suffit pas de dire que l'islam met les femmes en bas, etc. C'est parce que ça aussi, il y a le point de vue anthropologique sur l'histoire des sexes et la position des sexes dans toutes les cultures. Ça, c'est le grand problème pour tout, en Allemagne et partout. Hein, et ce problème n'est pas résolu.
Non.
Il n'est pas résolu. Oui. Ma femme a préparé un peu de thé. On va prendre un peu de thé et puis on va revenir.
Regardant toute la région islamique de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Asie, on doit dire qu'il n'y a pas l'islam comme unité. Est-ce qu'il est possible qu'il se développe par conséquence aussi un euro-islam, c'est-à-dire un islam qui joint les traditions européennes et occidentaux avec la tradition islamique religieuse et culturelle?
Oui, ça c'est aussi une très importante question pour comprendre la façon dont l'islam s'est implanté dans des cultures et des peuples extrêmement différents. L'islam s'est installé dans les sociétés asiatiques, dans les sociétés africaines, sans modifier les cultures de ces sociétés. Autrement dit, l'islam n'est pas théologiquement très exigeant, comme le christianisme. Il ne demande pas une conversion culturelle. comme le christianisme. Il suffit d'adhérer à une profession de foi très simple. Comme je l'ai dit, oui. Que Dieu est unique et que le prophète Mohammed est son messager. Et puis, faire les cinq obligations de la religion, c'est-à-dire la prière, le pèlerinage essentiellement, ça suffit pour être musulman. Par ailleurs, on reste indonésien, on reste sénégalais, on reste congolais, on reste algérien, etc. On ne change pas tout l'environnement culturel. Personnellement, par exemple, j'appartiens à une région d'Algérie où il y a uniquement des berbérophones, pas des arabophones. Donc nous n'avons pas accès au Coran en langue arabe. Nous connaissons simplement quelques bribes pour faire la prière. Petit texte pour faire, ça suffit pour vous qualifier comme musulman. Et nous avons conservé toute la culture, les coutumes spéciales à la région qu'on appelle la Kabylie en Algérie. Et ceci se fait partout. Donc il y a cet aspect-là de la flexibilité de l'islam pour s'intégrer dans les différentes cultures. Dans le cas européen, c'est différent parce que l'islam vient s'installer au Maroc, vient s'installer en Europe au moment où l'Europe a atteint un très grand niveau de développement. Sauf dans les Balkans où l'islam est un peu plus ancien, en Allemagne, en France, en Angleterre, l'islam a commencé à s'installer pratiquement dans les années 50 et 60 et 70. C'est très récent. Dans l'environnement européen, la culture européenne moderne est extrêmement forte. Elle est plus forte, je vous l'ai expliqué, que la culture islamique. Par conséquent, l'islam va connaître un développement en Europe qu'il n'a pas connu dans les autres sociétés. L'islam en Europe est obligé de faire face à la sécularisation, comme le christianisme. Il est obligé de faire face à la culture de l'incroyance, qui est très forte. Donc l'islam se trouve en situation de fragilité, parce qu'il n'est pas préparé pour affirmer sa présence devant la culture de l'incroyance, qui, elle, a des outils intellectuels, scientifiques et politiques et juridiques très forts. À l'heure actuelle, l'islam résiste à la force d'intégration de la culture européenne moderne, mais il résiste par le rituel. Il ne résiste pas par la culture théologique. Il ne résiste pas par la culture intellectuelle. Sur le plan intellectuel, il est intégré, il s'intègre à l'Europe. Mais il résiste, par exemple, par les vêtements, par la prière, par le ramadan. C'est par le rite. Et le rite est une force de résistance qui va durer tant que les familles qui vivent en Europe ne sont pas totalement intégrées dans la culture européenne moderne. Alors, je pense que les musulmans en Europe finiront par, ou bien, développer comme les chrétiens, une théologie moderne, pour s'adapter comme les chrétiens à la culture scientifique moderne, ou bien ils vont se fondre complètement dans la culture de l'incroyance. Je ne vois pas d'autre alternative possible. Évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, parce que pour l'instant, il y a le problème identitaire qui est très fort et qui fait que les musulmans conservent leur personnalité en s'accrochant à un rituel musulman, mais encore une fois pas à une culture suffisamment forte pour se distinguer ou même pour influencer la culture européenne.
moment ici, on réussit à développer une théologie moderne. Est-ce que cette théologie peut avoir aussi des influences
ah oui.
sur les...
Ah oui, absolument. Ça, s'ils réussissent à faire ça, l'ensemble des musulmans dans le monde vont regarder vers les musulmans d'Europe. Mais pour l'instant, je ne vois pas s'élever en Europe de grands théologiens qui puissent vraiment créer un mouvement de pensée, une école de pensée, de théologie musulmane moderne. Ça n'existe pas encore.
Et comment jugez-vous le rôle des intellectuels dans les pays musulmans, en Afrique ou en Asie ?
Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux catégories d'intellectuels dans les pays musulmans. Il y a deux catégories. Il y a les intellectuels qu'on appelle les oulémas, c'est-à-dire les docteurs de théologie. C'est les gestionnaires de la religion. Comme dit Max Weber, les gestionnaires du sacré. C'est-à-dire qu'ils sont en charge de la gestion orthodoxe de la foi musulmans dans les pays musulmans. Parmi ces oulémas, beaucoup sont des fonctionnaires de l'État. Ils sont payés par l'État. Ce qui diminue leur autorité spirituelle. Parce que dans la mesure où l'État n'est pas suivi par la société, les oulémas qui collaborent avec l'État sont automatiquement confondu avec cet état. Donc ils perdent de leur autorité spirituelle. Et d'ailleurs, dans la théologie musulmane, pour conserver une autorité spirituelle, il ne faut pas entrer dans une administration étatique. Contrairement à ce qu'on pense, il y a une séparation du spirituel et du temporel. Ce qui est différent de la séparation de l'Église comme institution et de l'État. Le spirituel, c'est le domaine du spirituel. En islam, le domaine du spirituel est autonome. Il doit être autonome. Mais l'État a confisqué cette autonomie. Parce que l'État nomme un ministère des affaires religieuses pour contrôler tout ce qui se passe dans la société au sujet de la religion parce que les musulmans ont tendance à utiliser la religion comme plateforme politique. Vous voyez comment il y a une lutte entre l'État et la société au sujet de la religion. Mais, du point de vue de la théologie, l'État n'a pas le droit d'intervenir dans les questions spirituelles. C'est seulement les docteurs en théologie qui ont le droit de se prononcer sur des questions spirituelles, pas l'État. Pas l'homme politique. Quand il y avait le califat autrefois, le calife n'avait pas le droit d'intervenir dans une discussion entre les théologiens. S'il intervient, on lui dit, on t'écoute pas. C'est pas ton affaire. Vous voyez, ça c'est un point important. Il y a une distinction du spirituel et du temporel. Mais il y a un mélange de la religion comme institution et de l'État. Sur le plan politique. Ces deux choses-là doivent être par conséquent très, très claires. Alors, qu'est-ce qu'on disait ?
Oui, de l'autre part, parce que beaucoup...
Oui,
des
oui. Alors, sur les intellectuels, oui.
Oui.
Donc, il y a un rôle spécial des oulémas. Maintenant, ce qu'on appelle en Europe les intellectuels. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui marque très fortement son indépendance par rapport au politique. Quelqu'un qui est dépendant du politique n'est plus un intellectuel. Quelqu'un qui est dépendant d'une église n'est pas un intellectuel. L'intellectuel est celui qui conserve une autonomie complète par rapport à toutes les institutions de pouvoir. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, l'intellectuel garde son autonomie, pourquoi ? Pour exercer la fonction critique dans tout ce qui se passe dans la société. Pas pour donner des leçons, pour dire faites ceci ou faites cela, non, il ne peut pas. pour dire voilà ce que je pense de la façon dont fonctionne la démocratie. En ce moment, en France, nous avons un grand débat autour de Bourdieu. Pierre Bourdieu. Tous les journaux parlent de Pierre Bourdieu à la rentrée, là. Vous verrez, dans Le Monde, il y a 4 pages sur Pierre Bourdieu, dans Le Point, dans L'Express. Pourquoi ? Parce que Pierre Bourdieu est un professeur au Collège de France, professeur de sociologie. Alors justement, il défend une position de l'intellectuel en disant « Je suis à l'université, mais je critique l'université. Je ne défends pas systématiquement l'université. Je suis à l'université, mais je critique l'État. Parce que j'ai le devoir, en tant qu'intellectuel, de dire ce que je pense au sujet de l'État. » Alors, il y en a qui acceptent ça, il y en a qui n'acceptent pas, ça fait un débat. Mais c'est bien, c'est ça l'intellectuel. Il provoque des débats. Alors, dans les pays musulmans, ce type d'intellectuel n'existe pas. Il ne peut pas encore exister, puisque je vous ai dit, pas de démocratie. Ce type d'intellectuel ne peut exister que dans un état de droit qui applique les droits de la démocratie et qui garantit à l'individu la liberté de penser, la liberté de publier, la liberté de débattre. Ça n'est pas le cas dans les pays musulmans. Donc, dans les pays musulmans, la fonction critique qu'exerce l'intellectuel ne peut pas s'exercer. Si vous franchissez un tout petit peu la frontière, on arrête votre livre, on le censure, on peut même vous mettre en prison. Donc, vous ne pouvez pas aller loin. Donc, la notion d'intellectuel, telle qu'elle s'est développée en Europe après l'Aufklärung, n'existe pas encore. En Égypte, par exemple, vous avez eu ce cas que vous avez entendu parler de quelqu'un qui a écrit un livre sur le Coran et on a voulu le divorcer de sa femme, un Égyptien. Nasra Bouzaïd. Voilà un intellectuel qui veut exercer sa liberté d'intellectuel. Il est professeur à l'université du Caire en Égypte. Ben, il ne peut pas. Il ne peut pas. Moi, je le fais parce que je suis ici à Paris et parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je prends aussi des précautions pour ne pas blesser la croyance des gens, et j'essaye d'être pédagogue et de leur expliquer, mais je ne renonce pas à la fonction critique. Donc la situation de l'intellectuel pour l'instant est fragile, mais les oulémas, eux, ont une position très forte, surtout lorsqu'ils travaillent pour l'EPA. Comme à Al-Azhar, par exemple, l'université d'Al-Azhar au Caire, où les professeurs sont nommés par l'État et où ces professeurs peuvent donner des fatwas selon le vœu de l'État.
Est-ce que vous voyez qu'il y a un changement dans la pensée des élites islamiques, même s'ils sont conservatifs? Le président d'Iran, Khatami, par exemple, a invité les sociétés islamiques de ne s'adonner pas aux civilisations occidentaux, mais aussi de ne rester pas seulement dans la tradition.
Oui, oui. Tout ce qu'on peut demander à un président, c'est de déclarer publiquement que les intellectuels ont la liberté de penser, de publier et de débattre. C'est tout ce qu'on leur demande, de garantir. Ce n'est pas de nous donner des conseils. Chacun est spécialiste d'une discipline, spécialiste dans un domaine et peut développer dans son domaine justement des débats de société. Mais des paroles comme ça, évidemment, ça c'est pour de la démagogie, c'est tout. Ça n'avance à rien. Ce qui est important, c'est de déclarer publiquement que les intellectuels iraniens sont libres de débattre de toutes les questions et seront protégés. C'est ça qui est important. Ça, aucun gouvernement encore ne l'a publiquement déclaré comme ça. Alors, il y a des intellectuels plus ou moins courageux qui s'avancent, ils prennent des risques. Et ils créent quelques débats, mais ce sont toujours des débats, malheureusement, qui ne vont pas très loin. C'est pourquoi, lorsqu'il y a, par exemple, des violations des droits de l'homme, et il y a beaucoup de violations des droits de l'homme, on n'entend jamais que des intellectuels ont signé une pétition, par exemple, ou ont déclenché une protestation pour défendre les droits de l'homme dans un pays musulman, parce que ils sont limités dans leur expression.
Il y a une autre citation. Il n'y a pas des islamistes modérés, a dit une fois le ministre de l'Intérieur français. Est-ce qu'on peut dire ça?
Il n'y a pas des islamistes.
Islamistes modérés.
Oui. Ça, je crois que c'est Jean-Pierre Chevènement qui a dû dire ça.
Le ministre de l'Intérieur français.
Oui, c'est Jean-Pierre Chevènement. Oui, parce que il y a une différence entre islamiste et islamique.
Oui.
Islamique, ça réfère à l'islam. En tant que religion, en tant que croyance et en tant que doctrine. Tandis que islamiste, c'est une position rigide qui affirme la supériorité de l'islam et qui veut imposer la supériorité de l'islam par la force et par la violence politique. Alors évidemment, si vous dites islamiste, vous ne pouvez pas dire en même temps modéré, puisque par définition, l'islamiste se définit comme ça, tandis qu'un musulman, évidemment, vous ne pouvez pas dire ni modéré ni rien, il est musulman comme un chrétien est chrétien, et il n'oblige personne à devenir musulman, ce n'est pas son affaire.
Je crois que vous avez répondu déjà à ces questions, mais une seule question, la dernière. Est-ce que vous partagez l'opinion que les causes de terreur, de la violence dans beaucoup des pays islamiques du monde sont premièrement économiques?
Je ne dirais pas cela. Je ne suis pas d'accord. Parce que l'économie a pris de l'importance à cause de la civilisation de consommation. Dans les sociétés paysannes traditionnelles, en Europe aussi bien que dans les autres pays du monde, on enseignait la morale de la suffisance, c'est-à-dire avoir juste de quoi survivre, avoir juste le nécessaire à manger, pas avoir beaucoup. La notion d'avoir beaucoup, la notion de profit, la notion d'enrichissement n'existait pas dans les sociétés paysannes ou nomades anciennes. Voilà pourquoi on enseignait, c'est une vertu morale que d'avoir ce qu'on appelle la satiété. C'est-à-dire, ça me suffit, je ne veux pas plus. Et les gens ne se révoltaient pas de ne pas avoir beaucoup. Ça, c'est une attitude qui est liée à l'expansion de la civilisation de consommation et qui est en train de gagner même les sociétés pauvres. C'est donc un phénomène nouveau, lui aussi, qui vient de l'Europe. Et pourquoi est-ce que il n'est pas juste de lier la violence actuelle uniquement à l'économie? C'est parce que le psychologique est également très important. Il y a des bouleversements psychologiques de toutes les sociétés extérieures à l'Europe parce qu'on leur a imposé par force des modèles de culture qu'ils ne peuvent pas assimiler facilement. Par exemple, la sécularisation de fait. Quand vous introduisez une télévision dans un foyer de paysans, où le code moral fait que les enfants ne peuvent pas regarder une scène d'amour devant leurs parents, parce que toute la morale l'a toujours interdit. Vous introduisez une violence psychologique dans le foyer. Vous voyez ? Quand un enfant vient, par exemple, avec un costume de type européen, dans une société rurale où on s'habille d'une manière tout à fait différente, le père, la mère, le village est choqué. C'est une violence symbolique. La violence symbolique est partout. Lorsqu'une femme s'habille très légèrement, une robe légère, presque nue, et passe dans un village, même si elle est touriste, ça introduit une agression psychologique. Or, les touristes vont dans les villages, se promènent, et ça provoque des impressions très fortes, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Donc, tout cela forme un contexte de civilisation qui crée quotidiennement des chocs. Et l'aspect psychologique, par conséquent, doit entrer en ligne de compte. D'autant plus que ce que les jeunes de 14 à 25 ans qui voient dans les cinémas, les revues, les journaux, ils voient toutes sortes de choses, ils ne peuvent pas y accéder. Impossible. Alors qu'est-ce qui va se passer avec l'adolescent ? Des crises terribles, des crises avec les parents, des ruptures. Et tout ça, ça crée des malaises. Et ces malaises finissent par se traduire par une révolte. De même, la morale sexuelle qui est appliquée dans les pays musulmans après les indépendances, sous prétexte de régénérer l'islam, on applique une morale sexuelle rigoureuse en séparant les sexes. Alors que partout, la culture ambiante vous montre des femmes et des hommes ensemble, des jeunes ensemble, des scènes d'amour, en veux-tu, en voilà. C'est une contradiction qui est difficile à vivre, très difficile à vivre. Or, ces contradictions se développent. Donc, il y a un mélange du politique, du psychologique, du culturel, de l'économique, bien sûr, de l'habitat. Quand vous avez 10 personnes, 15 personnes qui vivent une pièce, ça c'est un grand appartement, rien que cette pièce. Tout ça, ça compte. Alors dire c'est l'économie seulement, c'est mentir et cacher la réalité. Et tous les exemples que je vous ai donnés, il y en a encore beaucoup d'autres. Et pour moi, le côté culturel et le côté psychologique sont beaucoup plus importants.
Es ist nämlich eine beliebte Ausrede.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.